Alors ce matin, on commence une nouvelle série. 4 semaines, on va passer 4 exposés bibliques, donc 3 autres semaines à suivre, sur le thème, sur le sujet de la sainteté de Dieu. De ce Dieu qui est 3 fois saint, puis en même temps, qui veut être tout près de nous, chacun d'entre nous. C'est un des paradoxes extraordinaires dans la révélation que Dieu nous a donnée dans la Bible qui nous parle de ce Dieu-là. 3 fois saint, énorme, grand, et qui en même temps veut être tout près de chacun d'entre nous. Dépendamment de votre culture, du pays d'où vous venez, votre arrière-plan, votre éducation, votre arrière-plan religieux, spirituel, on a toutes sortes de manières différentes d'imaginer Dieu. Je ne suis pas en train de dire nécessairement qu'on ferme les yeux et on voit Dieu. Mais Dieu étant invisible, veut pas, on s'imagine, on essaie de concevoir Dieu. Et chacun d'entre nous, il y a des nuances, il y a des subtilités dans ça, dépendamment justement de notre arrière-plan, là d'où on vient. Dans les Écritures, il y a ce terme-là, la sainteté de Dieu, qui revient littéralement des centaines de fois. Des centaines de fois, la Bible nous parle de Dieu en disant qu'il est saint. Dans ce passage, dans cette vision que le prophète Ésaïe a eue, il est dit « Saint, saint, saint est l'Éternel des armées ». Et encore une fois, dépendamment de votre arrière-plan, ce terme-là veut dire différentes choses. Dans mon arrière-plan, moi, lorsque j'entends ça encore aujourd'hui, après 15 ans, 20 ans où j'étudie les Écritures, ce qui vient naturellement à mon esprit lorsque je pense à la sainteté de Dieu, c'est une notion de pureté. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Oui, non? Notion de pureté. Fondamentalement, là, quand je pense à la sainteté, pour moi, c'est une question de pureté. En fait, j'ai une vieille expression. C'est pas tout le monde qui la connaît sûrement. C'est du vieux français, date du 16e siècle. Qui est assez péjoratif, on disait d'une fille qu'elle pouvait être une sainte nitouche. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Une sainte nitouche. Ça dit ce que ça a à dire. Vous comprenez ce que ça veut dire? Sainte nitouche. C'est assez péjoratif, d'accord? Mais c'est en train de dire que c'est quelqu'un qui se tient loin du mal, qui se tient loin de certaines choses, n'est-ce pas? Et c'est dit avec une connotation très péjorative. Et donc, pour moi, dans mon arrière-plan, moi, la sainteté, ça parle de pureté. En réalité, ce terme-là est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus vaste que ça. Ça nous dit beaucoup plus de choses sur la personne de Dieu. Et ce matin, on va aborder cette question de la sainteté de Dieu. On va rester dans ce thème-là pendant 4 semaines. Ce matin, on se concentre sur une seule idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle de Dieu et on dit qu'il est saint, la Bible nous dit qu'il est 3 fois saint. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous révéler sur sa personne lorsqu'il parle de cette sainteté de Dieu? Ce matin, on va voir ensemble que Dieu est incomparable dans sa grandeur, dans sa beauté, dans sa pureté. Il est donc digne de toute notre adoration. Alors retenez ça, ce matin on va voir ensemble que Dieu est incomparable dans sa grandeur, dans sa beauté, dans sa pureté. Et cela demande une réponse de chacun d'entre nous. En fait, de chaque individu sur la terre, cela demande une réponse. C'est quoi le terme qui est là pour sainteté? Qu'est-ce que ça veut dire saint? Kadesh dans l'hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qui est un petit peu mystérieux parce qu'honnêtement, lorsqu'on cherche la racine étymologique du terme qui est là, ça veut dire une chose très très simple. Ça veut dire séparé de, coupé de, à part de, à l'écart de. C'est tout ce que ça veut dire. Et donc, lorsque Dieu se présente comme celui qui est saint, 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 déjà, on peut comprendre que Dieu est en train de nous dire qu'il est à l'extérieur de, il est à part, il est incomparable. Parce que Dieu est au-delà. Au-delà de toute chose, au-delà du temps, au-delà de tout. Dieu est en train de nous dire qu'il est dans une classe à part, une classe complètement différente de nous. Dieu est au-delà de toute chose, avant toute chose. Et Dieu s'est fait connaître à travers la Bible, à travers la parole de Dieu. Le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, nous raconte le récit de l'origine de la terre, de la création. Le premier verset de la Bible commence avec Dieu. Parce qu'il est au-delà, avant toute chose. Dans Genèse 1:1, on lit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu. Au commencement, avant toute chose, Dieu. Lorsque nous, on pense à peu près n'importe quoi, toute chose a son origine. Lorsqu'on pense à de la création, j'aime les arts, je mange de ça, j'en dévore, j'aime ça. Puis on dit des gens qu'ils sont créatifs. Ouais. En réalité, les créatifs, c'est des gens qui font des nouvelles associations de matière, d'idées, d'émotions, d'images. Mais jamais un être humain crée véritablement. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il crée des nouvelles associations. Lorsqu'on pense à Dieu, c'est pas de ça qu'on parle. S'il a fait des nouvelles associations, ça venait juste de lui. Parce qu'au commencement, Dieu. Pensez à l'univers. On a quelques images de l'univers ce matin, simplement pour avoir une idée, une perspective de la grandeur des choses. On a maintenant des télescopes qui nous permettent de voir extrêmement loin. Très, 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 très loin. Et plus on regarde loin, plus on réalise à quel point nous sommes minuscules. À quel point nous ne sommes rien dans tout cet univers-là. Maintenant, lorsqu'on pense à Dieu, on regarde tout ça, puis on dit, avant tout cela, à l'extérieur de tout cela, précédemment tout cela, Dieu. Dieu. Voyez-vous cette idée de sainteté de Dieu qui le met dans une classe à part, au-delà de tout. En théologie puis en philosophie, si vous avez fait un peu d'études en philo, on va parler de la transcendance de Dieu. Dieu est à l'extérieur de toute chose. Il dépasse toute chose. Il transcende toute chose. J'aime bien le terme en anglais « the otherness of God ». L'autreté de Dieu. Dieu, c'est l'autre qui est incomparable, qui est avant toute chose, qui est à l'extérieur de toute chose. Et donc, lorsqu'on pense à s'approcher de Dieu, à connaître Dieu, à faire sa connaissance, écoutez, l'expression ne peut pas, ne pourra jamais être plus juste que de dire qu'on s'avance vers l'inconnu. Parce qu'on parle d'essayer de saisir celui qui est insondable, celui qui est avant, au-delà de toute chose. La sainteté de Dieu me dit que Dieu est au-delà de toute chose. La sainteté de Dieu nous dit que Dieu est incomparable, qu'il est dans une classe à part. Lorsqu'on fait des efforts pour essayer d'imaginer Dieu, l'origine de l'être humain, on arrive avec des choses des fois loufoques. On a trouvé deux images sur Internet, puis on essaie d'imaginer, mais qui est Dieu? De quoi a de l'air? Comment? Il est au-dessus de toute chose. Puis ça porte l'humanité dans toutes sortes de conjectures où on essaie de trouver des solutions, puis on sort des idées avec des extraterrestres. E.T. found home. Parce qu'on veut comprendre d'où on vient, où est-ce qu'on est. Puis là, on cherche à travers les étoiles une trace de notre origine. C'est vrai que la nature nous parle de Dieu, mais Dieu est incomparable. Dieu n'est pas comparable. Et donc, lorsque je veux connaître Dieu, à partir du moment où dans mon imaginaire, dans mon esprit, j'essaie de le définir, c'est certain que je suis un peu à côté de la traque. parce que j'essaie de saisir, d'encadrer celui qui n'est pas encadrable. C'est pourquoi chaque fois dans les Écritures qu'il y a une apparition, une vision de la personne de Dieu, il y a ce sentiment d'être saisi d'une peur incroyable. Parce que lorsque tu entres dans la présence de Dieu, lorsque tu as une vision de Dieu, c'est ce qu'on voit plusieurs reprises dans les Écritures, tu ne peux pas faire autrement que d'être saisi d'un énorme vertige. Où tu sens que tu n'as plus de prise, tu n'as plus d'attache. J'aimerais vraiment ça un jour, sauter en parachute. J'aimerais vraiment ça le faire. J'ai l'impression que le jour où je vais faire ça, je vais être le plus près de cette expérience où tu te retrouves devant Dieu. Parce que tout ce que tu peux avoir, c'est un sentiment de ta petitesse, de ta vulnérabilité. Parce que tu es devant celui qui est incomparable, qui ne se compare à rien de ce que nous avons vécu et expérimenté. Je ne sais pas quelle est ta vision de Dieu. Comment est-ce que tu conçois Dieu? Est-ce que tu as, à un certain moment donné, dans ton cheminement par rapport à Dieu, dans ta quête de Dieu, dans ton expérience avec Dieu, dans ta foi, saisi que lorsque tu t'approches de Dieu, tu t'approches de celui qui est incomparable? On vit à une époque où, dans notre vision des choses, tout nous est dû, d'accord? Les gens me doivent de l'amour, les gens me doivent du respect, les gens doivent faire attention à ma personne, les gens doivent respecter ce que je suis, doivent me laisser de la place pour devenir tout ce que je suis appelé à devenir. Et c'est pas tout à fait faux tout ça. C'est l'expression de l'amour lorsqu'on donne ça à quelqu'un et il y a quelque chose de très sain dans tout cela. Mais en même temps, je pense que dans notre époque, ça vient façonner, ça vient affecter profondément notre vision de Dieu. Parce que Dieu fait partie de la foule de ceux qui me doivent quelque chose. Dieu fait partie de la foule des ressources disponible pour Yannick Etier. Ah, il y a l'Église de l'Espoir, la société, l'éducation qu'on m'a donnée, mon background, et au besoin, Dieu. Ressources disponibles pour moi. Tu ne peux pas mettre Dieu dans une classe comme ça. Si c'est ta vision de Dieu, tu n'as même pas commencé à t'approcher de Dieu. Si tout ce que tu as saisi de Dieu, c'est ce qu'il peut t'apporter. Tu es à des années-lumière. Tu es à l'autre bout de la galaxie par rapport à Dieu. Est-ce que tu as reçu une révélation de la personne de Dieu qui t'a conduit à te taire? À faire silence devant Dieu et à dire simplement, Dieu est là, et si je peux accéder à sa présence, c'est une grâce incroyable. Parce que je réalise en ce moment, par une révélation divine, que Dieu est incomparable. Et que s'il s'approche de moi, c'est une grâce de sa part. Voyez-vous, une des implications extrêmement concrètes et pratiques, si Dieu est cet être totalement infini, totalement à part, dans une classe à part, tout à fait incomparable à l'extérieur du temps, à l'extérieur de l'espace, si Dieu est Dieu, pour qu'on le connaisse, pour que moi je le connaisse, il va falloir qu'il se révèle à moi. On consacre des milliards et des milliards et des milliards de dollars à la recherche pour saisir l'univers, pour lire l'univers. Aucun microscope, aucun télescope ne nous permettra jamais de saisir Dieu par nous-mêmes. Si Dieu est Dieu et que tu l'as connu, c'est parce qu'il a décidé de se faire connaître à toi. Autrement, il est insaisissable tant il est autre que nous. Parce que nous sommes trop petits pour saisir Dieu par nous-mêmes. Est-ce que Dieu s'est révélé à toi? Est-ce que Dieu s'est fait connaître à toi? Il le fait par sa création, mais il le fait par sa parole, par la Bible, et il le fait par la personne de son Fils Jésus-Christ. Est-ce que Dieu s'est fait connaître à toi? Et peut-être que tu es en cheminement, en train de chercher à saisir ce Dieu, cet être incomparable-là. Tu veux le connaître, le saisir, le découvrir. J'aimerais ça vous lire un passage qui est tellement, tellement encourageant. C'est dans le prophète Jérémie qu'on trouve ça, dans Jérémie 29, les versets 12 à 14. Voici ce qu'on lit. « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Cette promesse-là, Dieu l'a donnée à son peuple Israël, mais Jésus l'a répétée à tout homme qui cherche Dieu. Et donc, si dans ton cheminement spirituel, chrétien ou non, si dans ton cheminement spirituel, tu dis, je n'ai jamais saisi dans mon cœur que Dieu est saint en ce sens qu'il est incomparable, qu'il est au-delà, qu'il est plus grand. Je n'ai jamais eu une telle révélation de la part de Dieu. Ce matin, je t'encourage de tout mon cœur à prendre un temps avec Dieu à l'écart, dans la prière premièrement, et à exprimer à Dieu que tu as besoin de cette fraîche révélation de la grandeur de Dieu, de sa sainteté, afin que Dieu, dans ton esprit, dans ton expérience, dans ta foi, dans ton quotidien, reprenne la place qui lui revient. Vous comprenez que servir un Dieu qui est là pour moi, qui fait partie des ressources disponibles, qui, en fin de compte, n'est pas saint, c'est plutôt un Dieu ressource. Et au contraire, m'arrêter dans la présence d'un Dieu qui est infiniment plus grand que moi, mais qui a bien voulu se faire connaître à moi. Vous saisissez que ça change tout ça? Quand lui est dans ma vie et que je suis en train de le contempler, je peux accueillir un enfant qui a la fibrose kystique. Je peux accueillir des mauvaises nouvelles. Je peux accueillir des maladies. Je peux être maltraité, je peux être rejeté, je peux souffrir à mon travail, je peux souffrir à la maison, je peux ne pas trouver ma place dans l'univers. Je l'ai trouvée! Elle est là devant Dieu! C'est ça ma place! Être en relation avec celui qui est au-delà de toute chose, qui est avant le commencement de toute chose. Et si vous n'avez pas vécu une telle révélation de la part de Dieu, prenez votre agenda. Prenez du temps à l'écart, partez une journée en forêt, apportez votre Bible, allez lire des psaumes, allez dans la prière, prenez un temps pour jeûner à l'écart. Dites, Seigneur, j'ai besoin d'une fraîche révélation de ta personne. Si vous marchez avec Dieu depuis de nombreuses années et ce Dieu saint-là est disparu de votre champ de vision, prenez un temps à l'écart avec lui pour simplement dire, viens te révéler à moi parce que par moi-même, je ne peux pas te saisir, t'es trop grand pour moi. J'ai besoin que tu fasses la distance entre toi et moi. Et il vous donne cette promesse ici dans Jérémie, qu'il veut se révéler à vous. Et dans sa grâce, par la puissance de son esprit, À un moment donné, les deux jambes vont flancher, vous allez tomber à genoux devant sa majesté, devant sa gloire. Ça va bouleverser toute votre marche, chaque jour. Ça va mettre plein de choses en place dans votre vie. Ça va créer toutes sortes de désordres et d'ordres nouveaux dans votre vie parce que vous allez réaliser que vous êtes en présence de celui qui est incomparable. Quand vous allez vous approcher de lui, il va avoir ce sentiment profond qu'il tient toutes choses et qu'il est inébranlable. Que votre vie peut être complètement bouleversée dans une tempête, mais lui est là. Et il s'est fait connaître à vous. Si Dieu est au-delà de toute chose, s'il est incomparable, il va de soi que Dieu est le summum et ce qu'il y a de plus beau, de plus sublime, de plus extraordinaire. Si Dieu est incomparable, Dieu est habité, revêtu d'une gloire et d'une majesté qui est incomparable avec tout ce que nos yeux ont vu. Et là, je m'en viens dans ce passage, dans le livre d'Ésaïe, où ce prophète a cette révélation de la personne de Dieu. Et ce qu'on voit apparaître dans ce passage, c'est que cette idée de sainteté de Dieu, le fait qu'il est autre, qu'il est séparé, qu'il est à l'écart de, est constamment associée avec sa majesté, sa beauté, sa gloire. Quand Dieu révèle qu'il est autre à un être humain, cet être humain-là prend conscience au moment même qu'il est en présence de ce qu'il y a de plus beau dans l'univers, de ce qu'il y a de plus glorieux, de plus majestueux. Ésaïe 6, 1 à 4, je vous le relis rapidement. « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. » On ne sait pas exactement où est-ce que Ésaïe se trouve à ce moment-là. Un temple céleste, où est-ce qu'il est exactement? Mais il est en présence de Dieu. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison fut remplie de fumée. Être en présence du Très-Saint, c'est être en présence de ce qu'il y a de plus glorieux, de plus majestueux, de plus beau. Et dans cette vision qui a été donnée au prophète Ésaïe, il y a ces deux êtres-là uniques. Pour autant qu'on a dans les Écritures, les séraphins, on n'en entend pas parler autrement, une sorte d'anges qui sont là de chaque côté du trône de Dieu. Et on devine par la description qui en est faite, par la puissance de leur voix, que peut-être que je ne voudrais pas rentrer dans un petit fist fight avec ces deux êtres-là. Il y a une puissance déjà en eux-mêmes qui est présente, qui est extraordinaire. Et ces deux êtres-là, majestueux en eux-mêmes, sont présents. Et la description qui en est faite est tellement éclairante. Vous avez ces êtres extraordinaires qui sont présents devant Dieu, juste là au-dessus du trône, comme pour veiller sur la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Avec leurs ailes, ils couvrent leur visage. Une marque d'humilité, ils expriment le fait que Dieu est trop beau, trop grand pour simplement le regarder face à face. Et ils couvrent leurs pieds pour autant qu'on peut saisir, c'est encore une marque d'humilité en présence de Dieu. Et tout ce qu'ils font, c'est qu'ils constatent la gloire, la majesté, la beauté de Dieu en déclarant une seule chose. Dieu est autre. Dieu est dans une classe à part. Dieu est incomparable. Et lorsqu'il le déclare, les fondements des portes du temple sont ébranlés. Je donnerais ma vie tout de suite pour vivre ça. Tout de suite. Le Seigneur ne m'a pas pris au mot, je suis encore vivant. J'aurais tellement aimé ça être là et j'ai hâte d'expérimenter cela. Saisir la sainteté de Dieu, c'est saisir que Dieu seul est absolument beau, est absolument merveilleux. Et lorsque Dieu nous donne une révélation de sa sainteté, de sa majesté, de sa gloire, encore une fois, ça vient mettre de l'ordre dans ma vision des choses. Lorsque le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte et que Pharaon et son armée, extrêmement puissante pour l'époque, est en train de poursuivre ces gens-là qui étaient sans défense, et ils ont vu Dieu intervenir avec puissance pour détruire cette armée, voici ce qu'ils ont dit, voici comment ils se sont exclamés dans Exode 15, 11. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? » Parce qu'à ce moment-là, en voyant la puissance de Dieu se manifester, ils ont eu un aperçu de la beauté de Dieu, de sa grandeur. Les deux séraphins qui sont là en présence de Dieu dans Ésaïe disent « Toute la terre est pleine de sa gloire. » Lorsqu'on commence à comprendre qui est Dieu, lorsqu'on lit les Saintes Écritures, puis on commence à saisir comment Dieu s'est fait connaître, une des choses qui nous frappe, c'est notre manière de voir la nature, de voir les gens, de voir tout ce qui relève de la création de Dieu. Et à un certain moment donné, tu commences à voir les choses et tu dis, mais finalement, c'est un livre. La nature, les nuages, les couchers de soleil, un petit enfant que tu prends dans tes bras qui se met à rire, de voir un couple qui est en amour, de découvrir l'amitié, de voir des édifices qui se construisent avec un génie, une architecture. Tu vois tout ça et à un certain moment donné, tu réalises, mais tout ça me parle de Dieu. Tout cet ordre, cet sublime ordre-là, extraordinaire, cette vie tellement organisée, majestueuse, belle, me parle de Dieu. Toute la terre est remplie de sa gloire. Lorsque tu as reçu cette révélation de la personne de Dieu, tu t'en vas n'importe où sur la route, tu regardes les choses, tu jases avec des gens, tu es en train de recevoir des amis à souper, puis à un moment donné, tu réalises... « Wow, la beauté de l'amitié, c'est extraordinaire cette affaire-là. » On n'est pas en train de se bouffer les uns les autres, on n'est pas en train de se détruire, on n'est pas en train de s'entretuer, on est en train de s'aimer. Il y a une convivialité, il y a une joie qui est là. Ça me parle de Dieu encore. Parce qu'à travers toute la création, on voit constamment cet ordre-là, cette structure, cette organisation, ce qui se construit, cette esthétique-là qui est constamment présent, que ce soit dans la nature, que ce soit chez les gens, que ce soit dans les choses que nous pouvons produire. Tout ceci me parle de Dieu. Malgré le fait qu'on vit dans un monde qui est profondément affecté par le péché, et que si souvent nous posons des gestes, nous posons des actes qui sont contre nature, qui ne construisent pas mais détruisent, pourtant, malgré tous nos efforts à dire non, c'est moi qui vais runner le show, Dieu continue à manifester sa gloire à travers toute la terre. La sainteté de Dieu me dit que Dieu est autre. Il est dans une classe à part, complètement à l'extérieur, incomparable. La sainteté de Dieu me dit que Dieu est sublime, il est la parfaite beauté. Et encore une fois, si Dieu t'a donné cette révélation-là de sa beauté, de sa majesté, de sa gloire, ça vient changer toute chose dans ta manière de vivre ici-bas sur la terre. Tu apprends à discerner ce qui est vraiment beau. Une femme est belle lorsque je la regarde avec les yeux de Dieu. On vient de terminer la série sur les 10 commandements. J'en ai une seule, pour reprendre l'expression de Miguel, que je convoite parce que Dieu m'a donné une épouse. Tous les soirs, lorsqu'elle rentre, dans ma chambre à coucher, oui. Mais lorsque j'ai réalisé la beauté de Dieu, sa gloire et sa majesté, ma manière de voir toutes mes autres sœurs dans la foi, toutes les belles femmes qu'il y a, change profondément. Parce que je comprends que la beauté, c'est quelque chose qui est pur, qui est gracieux, qui est profondément saint. Ça vient transformer ma définition du beau. Complètement. Complètement. Et ça vient guider mon désir d'entrer moi aussi dans cette construction-là, cette réalisation-là, cette œuvre d'art que Dieu fait jour après jour à travers toute la terre en faisant de belles choses. J'ai envie d'aimer, de prendre soin, de donner parce que je veux faire ce qui est beau. Parce que j'ai réalisé que Dieu est sublime et qu'il est beau. Et si dans ta vie, tu es toujours en train de lutter entre faire ce qui va être profondément égoïste, charnel, sombre, noir et destructeur, puis tu es attiré toujours de ce côté-là, chrétien ou non, demande à Dieu encore une fois de te donner une fraîche révélation de sa gloire et de sa majesté. Ça va te faire grandir, ça va te tirer par le haut vers ce Dieu-là qui est gloire et majesté. Et ces choses plus petites, qui sont profondément égoïstes et sombres, vont avoir beaucoup moins d'attrait pour toi parce que tu vas vouloir vivre constamment dans la présence de cette beauté, de cette gloire. Tes relations, tu vas être moins petit. Vous savez ce que je veux dire, petit? Quand tu rentres à la maison, puis ton épouse est là, puis tu veux juste penser à toi, tu es petit. Quand tu reçois quelque chose, puis tu veux le garder pour toi, tu es petit. Quand quelqu'un t'accroche, te fait du mal, puis ta réplique, c'est de rendre la même chose, tu es petit. Mais quand tu as une fraîche révélation de la beauté, de la majesté de Dieu, tu veux grandir. Tu veux saisir et représenter cette beauté, cette majesté-là. C'est certain qu'Ésaïe a été profondément transformé par cette rencontre avec Dieu. Profondément transformé. Demande à Dieu de le faire, de se révéler à toi. Il veut le faire. Et si Dieu est parfait d'une beauté absolue, oui, ça implique que tout ce qui est mal, l'horreur de l'égoïsme et du péché, ne font pas partie de son être. C'est ça que ça implique. Lorsqu'on parle de cette sublime beauté de la personne de Dieu, le péché ne peut pas entrer dans sa présence. Et donc, si Dieu est à part de sa création, si Dieu est incomparable, il est incomparable dans sa pureté. Il est absolument, parfaitement pur, et cela implique cette pureté morale qui fait qu'en lui, il n'y a pas de mesquinerie, il n'y a pas cet égoïsme. C'est très difficile pour nous à saisir parce que Dieu nous dit qu'il a créé l'univers pour qu'on puisse participer à sa gloire. Et puis nous, on y va, puis on se projette en Dieu, puis on y va avec ce que nous, on est, puis on dit, mais c'est donc ben égoïste, ce comportement-là. Donc vous, j'espère que vous saisissez un peu ce matin. Si Dieu est Dieu et que son projet était de nous créer pour ne pas nous révéler sa gloire, ce serait alors un acte profondément mesquin et méchant de sa part. Parce qu'il est la beauté absolue. Il est le bien absolu. Et donc, lorsque Ésaïe entre dans sa présence et qu'il a cette révélation du Dieu qui est trois fois saint, pas réfléchi ce qu'il fait. Hein? Lorsqu'Ésaïe se retrouve devant celui qui est saint, 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 il fait ce que chacun d'entre nous allons faire un jour. Chacun d'entre nous. J'écoute beaucoup de musique, beaucoup de chansons et ça m'attriste toujours profondément pour l'auteur. Lorsque j'entends dans une chanson, le ciel ne m'intéresse pas, je veux aller au party qui est en enfer. Ou lorsque j'ai des discussions avec des gens, puis je perçois ce mépris envers la personne de Dieu. Lorsque je lis des passages comme celui-là, ça me ramène à cette vérité, cette réalité, qu'un jour, tous les êtres humains qui ont existé à travers tous les âges vont vivre la même expérience que Ésaïe a vécue ici. Un jour, tous les êtres humains qui vont se présenter devant Dieu vont tomber, terrifiés, sans même que Dieu ouvre la bouche. Parce que la réalité de notre impureté, de nos fautes, de tout ce qu'il y a de sombre en nous, de nos péchés, n'aura même pas besoin d'être examiné. Notre sainte approche envers Dieu va commander à notre corps, à notre âme, à tout ce que nous sommes, de vouloir mourir à ce moment-là. Parce qu'on va s'approcher du Très-Saint. Et Ésaïe dit ici, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Un jour, chacun d'entre nous, c'est ce que la Bible nous dit, on va avoir ce privilège incroyable de se présenter devant le trône de Dieu. Cette vision qu'Ésaïe a eue, un jour, chacun d'entre nous va la voir. Et il n'y aura plus de questions à ce moment-là. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il nous a créés pour sa gloire? Pourquoi est-ce qu'il a permis le mal dans le monde? Pourquoi est-ce que là, il n'est pas intervenu? Il n'y aura plus de questions. Ça ne vous passera même pas par l'esprit de dire... Parce que vous allez être en présence de celui qui est absolument pur, sans faute, glorieux de majesté, de beauté. Et dans ce passage d'Ésaïe, Dieu nous révèle à travers cette vision qu'Ésaïe a vécue un des aspects les plus glorieux de sa personne. Quand on parle de la beauté de Dieu, dans ce court passage, il y a un des aspects les plus beaux, à mon avis le plus beau de la personne de Dieu. La grâce. La grâce. Ce désir profond qu'il y a en Dieu que nous puissions entrer dans sa présence et y rester. Librement avoir accès à Dieu. Rester là devant lui sans être foudroyé, pulvérisé. Mais jouir de sa gloire. Participer à sa gloire en entonnant ce cantique avec ses séraphins. Saint, saint, saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Voyez-vous, à ce moment-là où Ésaïe est certain qu'il va mourir, Dieu intervient, envoie un des séraphins dans une belle image du pardon de Dieu. Il vient avec une pierre ardente et le touche pour le purifier. C'est vraiment une image. Il vient le purifier de ses fautes. Parce que Dieu sait ce qui se passe avec l'être humain lorsqu'il entre dans sa présence, lorsqu'il entre dans sa présence. Et c'est vraiment ça le paradoxe de Dieu. C'est que si cet univers extraordinaire où nous habitons est si ordonné, si beau, si magnifique, si l'être humain dépasse l'état animal de simplement vouloir manger, bouffer, se reproduire, mais au contraire, une aspiration dans l'âme à s'élever tellement plus haut que ça, c'est qu'il y a cet être à l'extérieur, avant, au-delà de toute chose, saint, 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 complètement à l'écart, qui a créé cet univers magnifique, extraordinaire. Et cet être-là qui est tellement autre, tellement beau, tellement glorieux, désire profondément dans son âme, que chacun d'entre nous, nous puissions entrer dans sa présence et ne pas être pulvérisés. Mais rester là et se joindre à cette chorale céleste pour célébrer sa gloire et sa majesté. Dieu désire te purifier, te laver parfaitement, comme il l'a fait avec Ésaïe ici, pour que tu puisses demeurer dans sa présence. Ce qu'on entend sur Dieu comme pensée populaire souvent, le plus souvent, c'est un Dieu assez petit, très disponible à notre service. Et ce matin, je te parle d'un Dieu qui est énorme, qui est grand, qui est gigantesque. Qui est Dieu, enfin? Qui n'est pas une patente que tu t'es créée pour te rendre service, mais qui est celui qui règne sur toutes choses. Et cet être-là magnifique désire le plus ardemment possible dans son cœur que tu puisses être heureux dans sa présence, malgré ton histoire, malgré tous ces côtés sombres de ta vie. Est-ce que tu as été purifié par Dieu? Est-ce que Dieu t'a touché pour te purifier, te laver? Si tu n'as pas cette absolue certitude, si tu n'as pas expérimenté cette grâce d'être purifié, d'être lavé, reviens la semaine prochaine. Reste avec nous pendant cette série-là. La semaine prochaine, on va voir comment ce Dieu incroyable vient vivre au milieu de son peuple, comment celui qui est trois fois saint peut rester au milieu d'un peuple qui est pécheur. Est-ce que tu as été purifié? Ou est-ce que tu es obligé de définir Dieu comme un être à ton niveau, disponible pour toi, tellement petit que là tu peux t'en approcher sans jamais découvrir la grandeur et la beauté de Dieu réellement? Et je ne peux pas faire autrement que de terminer avec une perle absolument extraordinaire qu'il y a dans les Saintes Écritures, parce qu'on va aller là à travers la série. Et je veux terminer avec ça. Vous savez qu'il y a un mystère dans ce passage-là? Il y a un mystère dans ce passage-là parce que la parole de Dieu nous dit que personne ne peut voir Dieu. C'est impossible pour l'être humain de voir Dieu. On lit par exemple dans 1 Timothée 6, les versets 14 à 16. Écoutez ceci. « Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. » À qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle, que nul homme ne peut voir. Ailleurs, dans l'évangile de Jean, dans Jean 1, 18, on lit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. » Mais qu'est-ce que Ésaïe a vu là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Un théologien que j'aime beaucoup, Jean Calvin, un des grands réformateurs du 16e siècle, nous a donné une belle clé, une belle perle à absolument extraordinaire pour saisir un peu de ce mystère qu'il y a là dans cette révélation de la personne de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12, versets 36 à 41. Si vous avez vos Bibles tournées, on va terminer sur ça, d'accord? Jean 12, verset 36. Je commence avec une parole de Jésus, et puis ensuite de ça, c'est Jean qui a écrit l'Évangile de Jean, qui va narrer, d'accord, puis qui va commenter ce qui s'est passé. « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus parlait de lui-même, d'accord, c'est très clair dans le contexte de l'Évangile de Jean. Ensuite, l'apôtre, l'auteur, dit « Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. » Il continue à commenter. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, c'est là qu'on était tantôt, qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Pour aller continuer à lire Ésaïe 6 cet après-midi. Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Parce qu'il y a ce principe dans la parole de Dieu, que Dieu se révélera à celui qui le cherche. Mais à celui qui ne veut pas chercher Dieu, Dieu se cachera. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Jean est en train de nous dire que Ésaïe, dans cette vision, a vu la gloire de Christ, a vu la gloire de Christ. Jean 12, 41, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Dans cette vision, il a été donné au prophète Ésaïe de voir celui qui est le reflet même du Père, le Fils, sur ce trône, dans toute sa gloire, dans toute sa majesté, dans toute sa splendeur, avant même que Christ ne devienne Jésus de Nazareth, qu'il ne s'incarne et soit homme. Il était là parce qu'il est Dieu le Fils. Et donc ce matin, si tu ne connais pas Dieu personnellement, si tu n'as pas eu cette révélation de la sainteté, de la gloire, de la majesté de Dieu, j'encourage de tout mon cœur à le chercher. Dans la prière, premièrement, lui dire « Viens te révéler à moi. » Ensuite, de prendre du temps à l'écart pour lire la parole de Dieu par laquelle il s'est fait connaître. Cette vision nous a été rapportée dans le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Tu peux avoir ça tout de suite dans tes mains, tu peux lire ça. Et il s'est révélé de manière parfaite et absolue dans la personne de son Fils, Jésus-Christ. Va lire les évangiles, va lire l'évangile de Jean, va lire ces passages. Tu vas rencontrer une personne et à un certain moment donné, par une œuvre de l'Esprit-Saint en toi, tu vas dire, mais c'était pas juste un homme, ce gars-là, ça se peut pas, c'était Dieu. Et c'est ce que les apôtres ont vécu lorsqu'ils étaient dans une tempête, dans une barque au milieu d'une tempête et qu'à un certain moment donné, Jésus s'est simplement levé, s'est adressé à la tempête et la tempête a simplement reconnu qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Et les eaux se sont tues, se sont arrêtées. Les disciples sont tombés sur leur face, sur leurs genoux. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Parce que Dieu est en train de se révéler à travers la personne de son Fils, Jésus-Christ. Et le secret est là. Le secret est là. Si dans ton cœur, tu as perdu de vue la sainteté de Dieu. Si dans ton cœur, tu as perdu la gloire et la majesté de Dieu, le secret se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Tu as besoin de prendre du temps à l'écart, oui, du temps dans la prière, oui, du temps dans la parole, oui. Mais tu as besoin d'une fraîche révélation de la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est en son Fils que Dieu s'est parfaitement révélé. Et en lisant ses paroles, en voyant ce qu'il a fait, en saisissant à nouveau la crucifixion et la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, en lisant le livre de l'Apocalypse, en voyant la gloire de l'agneau, Dieu va te donner par la puissance de son esprit une fraîche révélation de la sainteté de Dieu. Et toutes choses dans ta vie vont tomber en place parce que tu vas savoir que tu as connu celui qui est saint, saint, saint. On va aller dans la prière et dans la louange ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, si on vient dans ta présence ce matin, avec cette compréhension, cette vision de ta gloire et de ta sainteté, ô Dieu, et en même temps avec cette conviction profonde qu'on peut s'approcher de toi avec un cœur en paix, un cœur paisible, c'est parce que nous avons saisi que Dieu est grand, majestueux, saint et pur, sublime en beauté et en majesté, et en même temps, que ton Père, Seigneur Jésus, désire que nous soyons près de lui, que nous entrions dans sa présence constamment, que nous le prions, que nous l'adorions, que nous venons lui apporter nos requêtes, nos besoins, qu'on puisse chanter ses louanges et malgré notre petitesse, malgré nos péchés, qu'elle soit reçue comme un geste d'action de grâce. C'est à cause de toi, Seigneur Jésus, que c'est possible. Parce que nous avons connu en toi toute la gloire et la beauté de Dieu, tout son amour et sa grâce à la croix. Nous avons connu que Dieu nous a aimés. Seigneur, je te prie pour toute cette sainte assemblée. Cette assemblée qui s'est réunie ce matin pour te célébrer, pour t'adorer, pour élever ton nom, pour chanter ta gloire, ta sainteté, pour joindre ses voix à celles des anges qui te célèbrent dans toute ta majesté. Je te prie, Seigneur, pour cette sainte assemblée. Viens nous donner une fraîche révélation ce matin, dans les semaines qui suivent, de ta gloire, de ta majesté, de ta sainteté, Seigneur. Et que cette qualité extraordinaire que tu as soit source d'inspiration, de force pour notre foi, de joie pour nous. Que ta sainteté ne nous éloigne pas de toi, mais nous rapproche de toi, Seigneur. Et que chaque jour, dans la prière, dans la louange, nos cœurs soient prompts à venir célébrer ta gloire, ta majesté, ta sainteté, Seigneur. Que nos cœurs soient portés vers ta beauté, élevés vers toi, Seigneur. Grandis de contempler ta gloire, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.